2017 n'était pas une année érotique, le titre revenant sans conteste à l'année 1969, c'était tout de même une année riche par bien des aspects, et nous le prouvons. Dans cette émission très spéciale de l'avant-dernier jour de 2017, chaque rédacteur de Radio Prague a choisi pour vous un reportage ou un entretien qui l'a particulièrement marqué durant l'année écoulée. Il y aura de la rouille qui brille avec le renouveau de la ville d'Ostrava, de la bouillabaisse avec le quotidien d'une Tchèque installée à Marseille, des échanges entre le monde arabe et la Tchéquie avec l'écrivain marocain Mohamed Achari, ou encore du cinéma avec la légende Marcel Ofuls, couronné lors du festival du film documentaire de Jihlava. Avant tout cela, il y a le destin exceptionnel de Trude Sojka, une rencontre choisie par notre rédactrice Elzbieta Arushkova. Bonne écoute à tous et à toutes. Gertrude Sojka Baum, plus connue sous le nom de Trude Sojka, était une peintre et sculptrice juive d'origine tchèque. Rescapée de la Shoah, elle s'est enfuie pour l'Équateur après la Seconde Guerre mondiale. Ayant épousé 2 ans plus tard un certain Walter Sojka, lui aussi rescapé juif de l'Holocauste, elle s'est installée pour toujours dans ce pays et y a débuté une carrière artistique couronnée de succès. Elle est connue notamment pour sa technique artistique de recyclage et pour son emploi du ciment, dont elle a été la pionnière. Près de 10 ans après sa mort, sa petite fille Gabriela Steinitz a fait le voyage en République tchèque pour en apprendre davantage sur son destin particulier. C'est cette rencontre qu'Elzbieta Arushkova a choisie.
Trude Sojka, en fait, elle est née à Berlin en 1909. Elle venait d'une famille tchèque, juive, donc quand elle était petite, ils se sont installés à Prague. Elle a vécu là toute sa vie jusqu'à ce qu'elle a étudié à Berlin, à l'Académie des Beaux-Arts. Et ensuite, elle s'est mariée à un Slovaque et ils sont partis vivre à Nitra, en Slovaquie. Et puis la guerre est venue. Ils sont passés par une série de camps de concentration dans Auschwitz. Donc voilà, et puis elle a réussi à survivre. Malheureusement, sa famille, non. Mais elle a trouvé son frère qui s'était réfugié en Équateur juste avant la guerre et donc ils se sont rencontrés là-bas. Donc je peux dire en gros que ma grand-mère est d'abord une artiste et ensuite une survivante de la Shoah.
Bien que Trude Sojka soit morte en 2007, quand sa petite fille n'avait encore que 12 ans, Gabriela Steinitz dit avoir été très attachée à elle.
Je me souviens encore quand j'avais peut-être 3-4 ans, j'allais dans son atelier et je la voyais peindre ou former des formes avec le ciment. Je me souviens aussi de sa cuisine. Elle faisait beaucoup de gâteaux que j'adorais. Elle avait toujours une expression un peu triste quand elle était seule. Parfois, j'avais envie de faire quelque chose pour elle et je ne savais pas quoi et je ne savais pas pourquoi parce que je ne comprenais pas ce qu'elle avait vécu.
Donc, d'où venait votre décision de partir en Tchéquie? Parce que, en fait, l'année dernière, vous avez effectué un Erasmus à Brno, donc à Moravie. C'est la première fois que vous avez venu en République tchèque?
Non, c'était pas la première fois. En fait, je suis venue en 2004 d'abord, quand j'avais 8 ans, avec ma mère et ma tante, pour visiter un peu la ville de ma grand-mère. Et c'est un voyage qui m'a beaucoup marquée, même si j'étais jeune, trop jeune. Mais on avait visité aussi Térésine. Oui, c'était quelque chose de très impactant. Et ensuite, je suis venue en 2015. Et donc, j'ai voulu revenir l'année suivante. J'avais l'opportunité de venir à Brno avec Erasmus. Et après la fin de ce semestre, pendant les vacances d'été, j'ai beaucoup voyagé autour de la République tchèque et puis en Pologne, dans les environs, pour retracer cette histoire.
Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Ouais, j'ai découvert beaucoup de choses, surtout beaucoup de documents. Au début, je ne savais pas vraiment où j'allais. J'allais juste aux archives, parfois chercher une date ou chercher si quelqu'un existait vraiment de la famille. J'ai aussi fait des recherches pour mon grand-père en Pologne. En Slovaquie, aussi de la part du premier mari de ma grand-mère. Avec son mari, ils habitaient à Nitra jusqu'en 1942. Et il y a un épisode très étrange que je n'arrive toujours pas à résoudre. En 1942, ils ont été marqués dans une liste de transport vers la région de Lublin, peut-être vers Majdanek. Et ils ont été rayés de la liste, et il n'y a aucune trace d'eux jusqu'en 1944. Et en 1944, en septembre, ils ont été transportés à Selej et à Auschwitz pendant un mois. Donc ils étaient en transit. Et là, ma grand-mère s'est séparée de son mari. Elle ne l'a plus jamais revue. Elle a été transportée à Gross-Rosen, que je viens de visiter il y a quelques jours. Et là aussi, j'ai fait beaucoup de découvertes. Par exemple, une lettre qu'elle a écrite en demandant au commandant du camp de lui laisser garder l'urne avec les cendres de sa fille, qui était déjà morte. J'ai découvert aussi des choses sur sa famille, par exemple sa sœur avec son mari et son petit enfant. Ils ont été transférés à Térésine et ils sont morts à Auschwitz. Et la mère de ma grand-mère, elle était morte à Malitrostinets. Donc c'est des choses comme ça que j'ai découvertes.
Vous les avez découvertes juste pour vous ou vous envisagez peut-être par exemple de les publier un jour, de faire une biographie?
Absolument, j'aimerais bien faire une biographie et faire une exposition aussi.
Après ce détour à travers l'histoire et par le Chili, direction l'extrême-est de la Tchéquie. Fort de la reconversion réussie de son patrimoine industriel, Ostrava n'est plus le point noir sur la carte de la République tchèque que la ville était encore dans un passé relativement récent. Aujourd'hui, Ostrava se veut une ville jeune, moderne, verte et propre, où comme ailleurs, il fait aussi bon vivre. Guillaume Narguet est allé cette année sur place pour le constater, et c'est le reportage qu'il a choisi pour ce best-of.
Lorsque s'ouvrent les portes de l'ascenseur, c'est tout Ostrava et ses environs qui s'offrent à vous. Là, en haut de la tour de l'hôtel de ville, à une hauteur de 73 mètres, vous avez la confirmation que la mauvaise réputation d'Ostrava n'a plus vraiment raison lieu d'être.
Halda Odra, za kterým se nachází stejnomenný důl, který byl vlastně posledním zavřeným v Ostravě.
C'est ce que confirme Petr Kazimirski. Petr, étudiant guide, qui depuis le sommet de la tour, passe ses journées d'été à aider les touristes à mieux s'orienter dans Ostrava.
À l'époque où le charbon était exploité à plein pot, le surnom de ville noire était justifié. Ce n'est pas compliqué. Si vous mettiez un t-shirt blanc le matin, il suffisait de vous promener dans le centre-ville et le maillot avait une couleur sinon noire, au moins grise. Mais depuis la fermeture du dernier puits à Ostrava même en 1993, la situation s'est nettement améliorée. La municipalité a fait des efforts pour reverdir la ville et je dirais que la pollution est maintenant minimale.
En cet après-midi de mois d'août chaude et ensoleillée, se balader dans les rues du centre-ville permet d'avoir la confirmation que les chemises, maillots et autres jupes blancs des habitants d'Ostrava et de ses visiteurs ne noircissent plus au contact de l'air. Tandis que piétons et cyclistes se promènent le long de la rivière Ostravice, jeunes, familles et enfants profitent, eux, des jardins fleuris ou des terrasses des cafés. Et si ce n'est pas le cas de Veronika Bjichachkova, chargée de l'accueil des visiteurs à l'hôtel de ville, elle se félicite néanmoins de cette évolution.
Les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Il y a d'abord les Polonais, bien sûr, qui sont nos proches voisins. Quand c'est un jour de fête nationale en Pologne, ils sont encore plus nombreux, que ce soit ici à la Tour ou au Zoo. Mais les touristes tchèques ont aussi appris à découvrir les charmes d'Ostrava. Nous avons aussi parfois des visites très intéressantes de Colombie, du Brésil, du Pérou ou plus récemment d'Australie. Je pense vraiment qu'Ostrava est de plus en plus apprécié.
Z Austrálie třeba jsme tu měli také návštěvníky, takže to povědomí o Ostravě je asi čím dál tím větší.
Appréciée, la ville, capitale d'une région longtemps présentée au temps de la Tchécoslovaquie comme le cœur d'acier de la République, l'est entre autres pour son riche patrimoine industriel, un pouvoir d'attraction dont Ostrava a su profiter et Veronika s'en félicite.
V Ostravě ten potenciál byl využit, si myslím, na maximum, když třeba...
A Ostrava, ce potentiel a été exploité au maximum. A Vítkovice, l'ancien réservoir de gaz a été transformé en auditorium et en salle de concert et un haut fourneau en tour panoramique. Et il y a encore beaucoup d'autres choses. C'est une réaction à l'intérêt grandissant en République tchèque pour le patrimoine technique. Les Tchèques apprécient toujours autant les châteaux, mais ils commencent aussi à en sortir pour découvrir d'autres choses. Et là, Ostrava a son mot à dire.
Son mot à dire, Emmanuel Chilo l'a lui aussi. Français installé à Ostrava depuis 12 ans, il a pu suivre cette nouvelle orientation d'une ville située à une heure de route des monts Beskides.
La ville elle-même, dans les 12 dernières années, elle a évolué énormément. On a une ville qui était un peu morte, je dirais, il y a 12 ans quand je suis arrivé. Aujourd'hui, Ostrava-Ville, ça vit. La place centrale, elle vit tous les jours, elle vit le dimanche, y a des activités tout le temps. Et moi, ce que j'aime le plus, je dirais, c'est les parties historiques, industrielles de la ville, où effectivement, cette industrie métallurgique et minière ne fonctionne plus aujourd'hui, ou du moins plus beaucoup. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est pas abandonné. C'est-à-dire que ces bâtiments, on en a fait des zones de vie. C'est une architecture qui aujourd'hui, j'appelle ça l'architecture noire et orange parce qu'elle rouille et donc elle prend de la couleur, mais elle est utilisée.
Une architecture qui n'a plus de rouillé que l'apparence et une grande partie de son histoire à Ostrava, qu'on se le dise, comme le fait si bien Petr Kazimierski, la poussière a laissé percer la lumière.
Teďka jsme na straně takové, že vlastně tady vidíme na Moravskou Ostravu přesně na centrum.
D'ici, nous voyons la partie morave d'Ostrava avec le centre-ville, tandis que la partie silésienne est derrière nous. Je pense que le plus intéressant est l'ancien site industriel de Dolní Vítkovice, car cela reste un complexe comme il n'en existe pas d'autres en Europe, où depuis l'extraction du charbon sont concentrées en un seul endroit toutes les étapes de la production d'acier. Tout en conservant son apparence d'origine et ses hauts fourneaux, Vítkovice est devenu un grand centre multiculturel et interactif. Le site est aussi le théâtre de grands festivals de musique, comme bien sûr Colors of Ostrava. Et même les plus grandes vedettes, qui sont pourtant habituées aux concerts aux quatre coins du monde, affirment qu'ils n'ont jamais joué dans un lieu aussi spécial que Vítkovice.
Retour à Prague avec Václav Richter qui suit de très près pour Radio Prague la littérature, sa passion. Dans son best-of personnel, il a sélectionné sa rencontre avec un écrivain nord-africain. Il faut réformer la société islamique si l'on veut surmonter les contradictions qui existent entre les textes religieux et le fonctionnement d'un État moderne, dit l'écrivain marocain Mohamed Achari. Lauréat du prix Booker arabe, Mohamed Achari était l'un des auteurs invités du Festival des écrivains qui s'est tenu à Prague du 10 au 15 novembre 2017. À cette occasion, il a bien voulu répondre aux questions de Václav Richter qui lui a demandé entre autres.
Bien que le nombre de migrants venus en République tchèque soit complètement négligeable, beaucoup de Tchèques se croient quand même menacés par la migration et l'islamisation. Et cela devient un instrument politique très efficace des partis extrémistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Les migrants des pays arabes peuvent-ils devenir un danger réel pour nous?
Moi, je crois que le danger réel pour vous, c'est le refus de l'autre, c'est le refus de la différence, c'est l'illusion que vous pouvez exister tout seul et dans des frontières fermées. C'est pas le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça le danger. Les immigrations actuelles sont des immigrations dues aux conflits régionaux et dues aussi à d'autres phénomènes liés à la période postcoloniale et notamment les problèmes du développement. Dans tous ces problèmes, l'Occident est partie prenante. Il a une lourde responsabilité. Il ne peut pas se dérober à sa responsabilité en ce qui concerne les conflits régionaux, au Moyen-Orient notamment et en Afrique. Aussi. Il ne peut pas nier son passé colonial et les dégâts que ça a engendrés. Et donc, il faut absolument regarder l'avenir et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour solutionner les problèmes existants sur place et qui sont la source permanente de ces mouvements de migrants. Et aussi voir que la responsabilité morale de l'Occident oblige cet Occident de regarder les misères de l'autre avec humanisme et avec une ouverture d'esprit. Vous pouvez construire une citadelle fermée, bien fermée, avec un discours de refus de l'autre et parfois un discours de la haine de l'autre. Mais le jour où vous n'aurez plus les migrants que vous allez détester et haïr, vous allez voir vous-même. Et donc c'est un danger pour vous, beaucoup plus qu'un danger pour les migrants.
Et s'il existe une ville de contact importante entre les deux rives de la Méditerranée, c'est bien Marseille. C'est là que Magdalena Rosinkova nous emmène maintenant à la rencontre d'une Tchèque installée dans la cité phocéenne. Magdalena Rosinkova est une journaliste tchèque installée depuis 2 ans à Marseille. Arrivée dans la cité phocéenne dans le cadre d'un stage effectué au bureau d'information du Parlement européen, elle travaille actuellement au centre culturel de la ville à Méditerranée. Auteure de nombreux reportages publiés sur des sites d'information tchèques, elle tient un blog sur sa vie et ses découvertes à Marseille pour le plus grand plaisir de ses jeunes compatriotes francophiles. De passage en République tchèque, Magdalena Rejkova a parlé au micro de Magdalena Rosinkova de ce blog intitulé « Bouillabaisse » ainsi que de son livre « Rtiaï Marseille » qu'elle a publié cet été et qui se veut être un guide pas comme les autres de Marseille et de la Provence. Elle a tout d'abord expliqué pourquoi elle s'est lancée dans l'écriture de ce blog.
Déjà j'aime bien écrire, alors je me suis dit ça me permettrait de faire quelque chose à part le stage. Alors c'est plutôt ça, de partager les histoires, les expériences avec ma famille. Mais après, ça me peut développer peu à peu parce que j'ai des copains qui travaillent dans les magazines littéraires, etc., qui sont intéressés à moi si je peux faire un article pour eux. Et comme ça, j'ai commencé un peu à développer le contenu du blog pour que ça ne soit pas seulement mes histoires personnelles, mais pour que ça soit quelque chose plus général, qui parle plus de Marseille, de la France actuelle, etc.
Donc ce blog a évolué depuis ces 2 ans.
Oui, il a beaucoup évolué, je trouve. Même aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose de drôle, je l'écris parce que je trouve ça quand même amusant. Mais sinon, j'essaie vraiment de plus en plus partager les histoires, pas mes histoires, mais les histoires des gens que j'ai connus à Marseille. C'est vraiment une ville qui est assez pauvre. On voit beaucoup de gens qui sont pauvres. Il y a beaucoup de problèmes, etc. Mais comme il y a beaucoup de problèmes, il y a en même temps beaucoup de gens qui essayent de les résoudre. Et c'est ça m'a impressionnée parce que les gens essayent de les résoudre par eux-mêmes, par leurs moyens, même si c'est des gens comme moi ou vous. En fait, l'idée, c'est que chacun peut faire quelque chose. Et ça peut être soit vraiment faire une ferme, quelqu'un peut faire des activités pour les enfants, quelqu'un choisit de ramasser les déchets, les mégots. Après, il y a des gens qui ramassent les aliments du supermarché qui sont déjà après l'expiration. Et c'est vrai, alors, il y a vraiment, c'est ça ce qui m'a impressionné, que chacun choisit sa voie, qui est très facile en fait, qui chacun de nous peut faire. C'est juste de choisir le moyen qui nous plaît, qui nous fait plaisir et qui peut faire aussi plaisir, qui peut aider les autres. Alors, je parle par exemple aussi avec... Je parlais avec Thomas Volks, qui est un skater qui est très connu à Marseille. Et alors, c'est un mec qui a choisi du skate pour faire des cours du skate pour les enfants des quartiers un peu difficiles. Alors vraiment, chacun choisit son moyen, sa voix, et chacun peut aider.
Vous avez aussi parlé dans une interview de l'esprit de partage parmi les Marseillais qui vous impressionne, qui mm-hmm. vous touche. C'est quelque chose que vous ne retrouvez pas forcément en République tchèque?
Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais je pense que c'est aussi vraiment à Marseille, c'est lié avec, avec ça dont je parlais, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Alors ça leur permet de, si on partage, ça nous permet d'avoir plus, si je le dis comme ça, mais ça peut être vraiment le partage parce que, par exemple, à Marseille, dans les rues, vous voyez tout. Il y a les meubles, les guitares, à côté des poubelles, il y a vraiment tout. Alors, c'est l'idée de, moi, j'ai pas besoin, alors je le donne à quelqu'un d'autre à qui ça peut servir. Mais c'est pas que les objets, mais aussi des services. Alors, vraiment, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent, je sais pas, qui se coupent les cheveux ou qui se donnent des cours de quelque chose et à l'autre, il propose quelque chose d'autre. Alors, il est vraiment... Et ça m'a plu beaucoup, cette idée de partage, notamment pour les gens qui n'ont pas d'autres possibilités de vivre.
Marseille, tu es mon soleil. I am the salt to your pepper. I I want to stay with you forever.
On en vient enfin à ce que j'ai choisi moi, et on en restera là, on se rend à Jihlava, la capitale tchèque du film documentaire. Marcel Ofuls, 90 ans passés, est un monstre sacré du cinéma documentaire. Il suffit de citer des films comme Le Chagrin ou La Pitié, ou The Memory of Justice, pour s'en convaincre. Aussi, le Festival international du film documentaire de Jihlava a judicieusement décidé de récompenser le cinéaste cette année pour son œuvre. Judicieusement, car cela nous a aussi permis de le rencontrer. On lui a fait remarquer que ses films étaient tout de même souvent très longs.
Ça dépend lesquels. Celui sur le mur de Berlin ne fait que 2 heures. Et les premiers, dont Munich et Le Chagrin et la Pitié, étaient destinés à la télévision et étaient donc destinés à être montrés en 2 parties. C'est pas trop demander à un public de regarder un film de 2 heures et les 2 heures après, un autre jour. Et puis, depuis, Dieu sait qu'il y en a d'autres qui ont fait des films 2 ou 3 fois plus longs. Shoah fait 9h30. Et si quelqu'un quitte la salle pendant Shoah, Claude Lanzmann est prêt à le fusiller.
Est-ce que si quelqu'un quitte la salle avant, par exemple, la fin d'Hôtel Terminus, qui dure 4h15, vous le laissez partir?
Comment?
Vous le laissez partir en vie? Si quelqu'un, un spectateur...
Ah, moi, je ne suis pas pour fusiller les gens, non. Non, non. Ni avec une caméra, ni avec d'autres armes, parce que la caméra est une arme. C'est plus tellement le cas maintenant, d'ailleurs. Mais la caméra de mon temps, comme disent les vieillards, que je suis... De mon temps, la caméra était un objet d'autorité. Les gens étaient impressionnés par une caméra être filmée. Ça les impressionnait. Maintenant, ils s'en foutent. Parce qu'il y a autre chose. Il y a les jeux vidéo, il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Facebook. On s'en fout des caméras. Mais de mon temps et du temps de Frédéric Wiseman, ah oui, bien sûr. Et Lanzmann, lui, a utilisé pour Shoah et pour les autres films qu'il a fait et qui sont, entre nous soit dit, super chiants. Il n'y a que Shoah qui est un chef-d'œuvre. Ça, les chiens. Pourquoi Israël est chiant? Tous les autres sont chiants. Mais Shoah se pose un peu là, d'un chef-d'œuvre. On n'a pas besoin d'aimer les chefs-d'œuvre, surtout quand ils vous font de la concurrence. Ce que je n'aime pas dans Shoah, c'est que c'est la mise en scène. Pour faire du documentaire, à mon avis, il faut de l'authenticité et de la spontanéité. Il ne faut pas que le coiffeur, qu'on lui demande de coiffer pendant qu'il répond aux questions.
Kdybys jen věděla, jak je mi nepříjemné, když na mě mluvíš, ba dokonce, když se mě dotýkáš. A bože, to je tolik nepříjemné. Špinavý Kamil je čističem kanálů, smrdí jak líbezné výpary z análů. Tak takový je Kamil. Kamile, debile. Kámoška Jarmila vždycky mi radila, stran se co nejvíce slizkého Kamila. Kamil je motýl a Kamil je včela. Kamila, liskala bych od rána do večera, potkávat Kamila, v šalině šavle bych házela netečným babičkám po klíně. Tak takový je Kamil. To bych se raději půl roku nemila, lepší než poznávat, potkávat Kamila. Kdybys tu nebyl, tak největším debilem představit nahého Kamila. Největším omylem byl by styk s Kamilem. Debile, debile, debile. Kamile, Kamile, Kamile. Kamile, debile. Ach, kdybych měla kulomet, tak už by to bylo hned, ale nebuďme zase zbytečně brutální. Kamil je totální, ale totální dement. On totiž neví co a proč. A proč a co. A vajco, to má místo hlavy, ano vajco. To bych se raději půl roku nemila, než poznávat, potkávat Kamila. Kdybys tu nebyl, tak největším debilem zůstává ten, co mě seznámil s Kamilem. Tak jako nejvíce schlupatý gorila chce si též představit nahého Kamila. Největším omylem byl by styk s Kamilem. Debile, debile, debile. La 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 la.
Voilà, avant de se quitter, c'était le groupe Moucha qui, pour beaucoup de jeunes tchèques et de moins jeunes, a constitué une bande-son, une piste de la bande-son de l'année 2017. C'est l'heure des adieux justement à cette année 2017 sur Radio Prague. J'espère que vous avez passé une agréable année en notre compagnie. Un mot encore pour saluer notre collègue Elżbieta Ruszkowa qui, après plusieurs années de bons et loyaux services, nous quitte pour d'autres horizons. Nous les lui souhaitons plein de succès, nous l'embrassons bien fort.